Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Nous sommes en direct côté club. C'est le rendez-vous de toute la scène inclusive au maximum. 22h, 23h à podcaster évidemment. Soirée basque et pop ce soir avec nos invités Marlon Manier pour la femme et Thomas Saez pour la compagnie des musiques télescopiques. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
La femme, troisième album pour le duo en studio, pour le groupe sur scène, qui depuis 2010 fait la preuve d'une alternative dans la pop française. Paradigme, c'est un album en forme de playlist de ce qui se fait de meilleur dans chaque genre, avec des motifs qui reviennent, les succubes, les vampires, un sens joyeux de l'ironie, jusque dans les sons hyper travaillés. La compagnie des musiques télescopiques, c'est une autre histoire, plus spatiale, plus conceptuelle, avec l'idée de mettre l'univers en musique. Deuxième album, le titre c'est Dome, composé avec l'idée de le diffuser dans un planétarium. Pour l'instant, c'est raté, on va y revenir. Marion ?
Zoom ou croque dans Corne de Gazelle, c'est le nouveau titre oriental ou funky de General Electric. On sera en ligne avec son commandant en chef, Hervé Salters, pour parler musique et peut-être pâtisserie vers 22h30.
Voilà, vous savez à peu près tout maintenant. On entend tout. Alors, bienvenue au club.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Marlon Manier du duo La Femme, Sacha Gott est resté à la maison du côté de Biarritz.
Non, il est venu exceptionnellement pour la sortie du disque, il est quelque part dans Paris.
Dans Paris, d'accord. Et Thomas Saez du projet de la compagnie des musiques télescopiques, les trois autres sont où?
Ils sont au Pays Basque.
J'en étais sûr. Voilà. Tous les deux vous êtes donc liés à la côte basque, mais est-ce que ça suffit pour se connaître? Vous vous connaissiez?
Oui, du coup.
En discutant 5 minutes, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de connexions.
On a vécu des péripéties similaires, je pense.
C'est-à-dire?
Je sais pas, la frontière du Pays Basque, au rapport avec les discothèques peut-être, les fêtes de Bayonne, les férias, la culture, les mots.
Vous êtes chipiron, surf, bargeant à Biarritz, fêtes de Bayonne, c'est quoi?
Fêtes de Bayonne, quartier Bibi, Pinchos, tout ça.
Ouais. Et vous?
Moi j'étais plutôt à côté Bayonne, donc...
D'accord, les fêtes de Bayonne.
Trop bargeant, nous.
Aucun surfeur?
Si, Sacha, mais il est pas là, moi j'étais plutôt skater, mais je m'en rappelle, on surfait à Hendaye tous les week-ends et en fait j'avais trop froid et au bout d'un an j'ai arrêté parce qu'on y allait même l'hiver en fait.
Il fumait des combinaisons. Ouais.
J'y arrivais pas l'hiver en fait. Mais Sacha, lui, il a persévéré, il a continué, il est toujours là-dedans.
Et vous, Thomas?
Non, je suis jamais monté sur une planche de surf. Non.
Et dans des arènes?
Et non plus.
Non plus.
Non.
Dommage. Est-ce que vous avez déjà partagé des scènes ensemble?
Non, en fait, c'est la première fois qu'on se rencontre, quoi.
Jamais fait de concert au-dessus de la côte basque?
Moi, j'étais spectateur d'un concert de La Femme.
Où ça va?
À la plage d'Ilbaritz.
Ah, voilà.
Voilà, ouais.
Je connais aussi. Il se passait quoi dans ces années-là? Parce que tous les deux, vous avez commencé dans les années 2010. Il se passait quoi? Parce qu'il y avait eu la vague chanson française, Delerme, Benabar, Mickey 3D, mais il n'y avait pas de scène pop. Pas véritablement encore.
C'était du pop anglais plutôt. C'était des groupes Stuck in the Sun, Skip the Use, Pony Pony Run Run. On était vraiment dans un truc anglais, tout ça, Cap Bambino. Et puis c'est vrai que là, ça part dans un truc un peu plus français. Mais je pense qu'il y a toujours eu des scènes. Elles changent de tête, quoi.
Et de votre côté?
Moi, j'ai jamais été trop au fait de la scène française, étant donné que toutes mes influences musicales, elles sont plutôt anglo-saxonnes. Donc finalement, je saurais pas trop vous dire ce qu'il y avait en 2010 dans la scène française, parce que
vous ne l'écoutiez pas vraiment.
Je ne l'écoutais pas vraiment. Ouais.
Alors même que vous travailliez quand même avec certains de ses représentants, vous aviez travaillé avec Alizé, avec Emma Domas, avec Alex Baupin pour la BO des chansons d'amour.
C'était un petit peu avant. Et puis c'était un peu une autre vie quand j'étais encore sur Paris avant.
Avant de redescendre et de signer vos projets. Exactement, on va en parler. Ouais. Marlon et vous, Thomas, vous vous êtes construits non pas avec quelle musique, mais contre quelle musique. C'est une question à la Chili Gonzalez qui demande généralement aux musiciens qu'ils rencontrent, pas quelles sont les musiques qui vous ont construits, mais contre quoi vous vous êtes vous-même élaboré musicalement.
Je pense que le grand mot d'aujourd'hui, c'est contre la variété.
C'est pour vous ?
Ouais, je crois que c'est ça.
Mais la variété, ça représentait quoi ? Vous êtes né dans les années...
Ça représente la musique qui passe à la radio, la musique qui passe à la télé, la musique de la Star Academy, la musique des grosses radios commerciales, par exemple Énergie, enfin voilà, toutes ces radios qu'on connaît. Et c'est de la musique souvent formatée par un critère de l'époque et une production. Il faut faire pour faire le goût. Et c'est là où des fois, bah, ça dénote et tout ça, quoi. Donc, et ce n'est que mon point de vue.
Non. Bah donc, vous êtes construit contre cette variété-là.
Contre la variété, ouais.
Et vous, Thomas Saez?
Non, je n'arrive pas à trouver vraiment de
repoussoir.
De repoussoir, ouais. Je pense que tout est intéressant à un certain degré à écouter. J'arrive à avoir de l'attrait pour une certaine variété.
Moi aussi, ouais.
Et comme un peu tous les genres de musique, même si c'est pas forcément ma musique préférée, quoi.
C'est pour nous, vous êtes fait les ongles ce soir, Marlon
Non,
ou c'est...
c'était des restes d'une prestation il y a quelques jours, quoi.
D'accord. En quelle forme? C'était quoi cette prestation?
J'étais.
C'était à quotidien?
Ouais, c'est ça. J'étais, on va dire, féminisé, quoi. Ouais.
D'accord. Très bien.
C'était chouette, hein. Ça
marchait
vachement
cool,
bien.
Hein, franchement, ouais. Moi, ça m'a fait beaucoup plaisir.
Bah
aussi,
ouais, c'était top. La femme, ça a surpris tout le monde. Hein. À l'origine, c'est un duo en studio, un groupe rock sur scène, avec des interprètes femmes qui se succèdent et qui reviennent, comme Clara Luciani dans le nouvel album. C'était super excitant au début, signé chez Barclay, révélation Victoire de la musique en 2014. Mais juste un petit peu avant, en 2010, vous aviez vous-même monté vos premières tournées aux États-Unis. Mmh. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'en France, c'était difficile à l'époque pour vous? On ne voulait pas de vous? Ou alors, il fallait voir ce qui se passait véritablement ailleurs?
Les deux, en fait. Après, au moment où on a commencé à partir, ça a commencé un peu en France, mais c'est vrai qu'au début, c'était dur. Comme on le disait tout à l'heure, c'était surtout des trucs anglais à l'époque, donc chanter en français, avoir des synthés aussi, en faisant du rock, c'était un peu bizarre,
fait, ouais.
Etc.
Ouais.
Donc c'est vrai que c'était compliqué, mais de toute façon, oui, comme on aimait bien tout ce qui était anglo-saxon, tout ça, on se disait bon bah allez, pour percer dans le rock, il faut aller à Londres, aux États-Unis, puis on est parti aux États-Unis.
Mais vous étiez où aux États-Unis? Vous êtes allé où faire quoi? Comment?
On est parti en Californie, à New York. On avait 19 ans et en fait c'était après justement la femme. En fait, on créait les chansons en studio avec Sacha à Soukos,
ouais,
d'ailleurs,
hein,
chez sa mère. Et en fait, on a eu l'opportunité de jouer en première partie de Mickey Green et Plasticine au Roxy Jam, qui est une compétition. Ils font des concerts sur la plage. Alors pour nous, c'était le rêve et c'était fou. On allait jouer devant 5000 personnes en première partie.
À 19 ans, ouais.
Et là, on s'est dit, bon, bah, ok, on va créer le groupe live. On a recruté tout le monde. On a envoyé plein de mails à plein de salles dans Paris pour pouvoir s'entraîner avant. Il y a eu quelques petites réponses sur 200 mails. On a eu deux réponses, en fait,
ouais,
sur 200 mails.
C'était pas des débuts si faciles que ça.
Non, c'était dur. Même un moment, il y avait un ami du lycée, il nous a programmé Victor de Midnight Special Record.
Ah, oui.
Il nous avait programmé au bus Palladium. On était là, waouh, le bus Palladium. Et puis, en fait, à la rentrée, ah non, désolé, le programmateur a dit non, en fait, il a pas aimé. Vous êtes pas assez rock et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a eu ça. Et puis en fait, on a eu la chance de rencontrer plein de surfeurs californiens durant cette compétition. Et c'est là où Sacha, il a eu la puce. Il s'est dit, on va aller aux États-Unis. Donc là, à ce moment-là, c'était le mois de juillet. On s'est dit, bon, bah, il va falloir qu'on trouve un boulot. Donc on a fait les saisons dans les bars et les restos de la côte. Et puis après, on a fait la même technique que pour le Roxy et trouver des dates.
Ouais.
On a envoyé des mails à toutes les salles de Californie, San Francisco, Santa Cruz, San Diego, New York, etc. Et puis, sur 200 mails, on a eu deux réponses encore.
Mais là, c'était les bonnes.
Dont une fille qui s'appelait Catherine O'Neill, qui a dit « Oh là là, j'adore ce que vous faites, j'ai plein de contacts, j'ai trop envie de vous aider. » Et voilà, quoi.
Et ça veut dire qu'après, quand vous revenez en France, vous revenez en force?
Ouais, exactement. Ouais. On revient en France, on a sorti notre premier EP, et puis là, on a la chance d'avoir des opportunités d'être bookés partout. Là, la vie change, quoi. On reçoit des emails. Enfin, on était vraiment contents. Et puis, les labels aussi qui voulaient nous signer. Donc, on a pu signer un super contrat où on pouvait un peu choisir à la carte ce qu'on voulait, quoi.
Exactement. Alors, le projet de la compagnie des musiques télescopiques, il est né comment, Thomas Saez?
Donc, c'est né en 2011.
Ça veut dire que vous étiez retourné du côté de la Côte Basque?
Ouais, c'est ça. On était tous sur la Côte Basque. Et à la base, on voulait écrire une musique qui soit propice à la contemplation du ciel étoilé. C'était un petit peu le postulat de base du groupe.
Ouais.
Et donc, ben voilà, c'est ce qu'on a fait. On faisait des concerts où les gens s'allongeaient dans l'herbe ou sur des transats et puis regardaient le ciel étoilé. Et nous, on jouait de la musique relativement planante.
Contemplative.
Voilà, tout à fait, contemplative. Et donc ça, c'était vraiment les prémices du groupe qui, après, bon, au fil des années, c'est un petit peu modifié. On en a eu marre de prendre des orages sur la tronche. voilà, de jouer avec les aléas du temps en montagne, ça change tout le temps. Donc on s'est dit que ce serait sympa de d'avoir une formule qui permette à la fois d'admirer le ciel, mais à l'intérieur d'une salle. Donc est arrivée l'idée du ciné-concert. Voilà, où on diffuse en fait des images d'un voyage spatial sur une sphère géante et on accompagne ça en musique.
On y reviendra tout à l'heure justement sur ce projet de conquête spatiale de votre côté. Maron, tout de suite, changement de paradigme avec vous. On écoute Cool Colorado sur France Inter.
Cool Colorado, je viens te rejoindre. Je viens m'asseoir sur tes bancs et respirer le vent ici. La vie est calme, les anges me caressent et je fume dans les rues sans le stress. Un peu comme à l'ancienne, loin de mes problèmes. Là où on vient, juste sentir la chaleur et sentir la douceur du vent des montagnes. Sweet Colorado, la radio joue un morceau de cowboy. Sweet Georgia boit dans les cheveux. Je fume une cigarette, papier maïs. Au coin de la sixième, je viens du nord pour rejoindre l'ouest. Je pose mes valises chez Lizzie à Denver City. C'est là que le train me laisse.
Colorado, extrait de ce troisième album Paradigme, avec une pochette aux effets surnaturels et une typographie pour le titre Paradigme qui rappelle celle du film culte Horror Picture Show, c'est ça?
Rocky Horror Picture
Show. C'est ça. Déjà. Au moment de le dire, j'étais en train de me planter. Comment fonctionne cette référence? Parce que c'est un film, on le sait, une comédie musicale rock, culte, qui rend hommage aux séries B, aux séries d'horreur, de science-fiction. Il y avait des séances de cinéma jusqu'en 2020, on a vérifié, oui. Donc encore récemment au Studio Galande, exactement. À Paris, où les gens jettent du riz, jettent de l'eau, refont toutes les scènes. Vous y avez assisté?
Non, malheureusement, une fois j'ai failli y aller, j'y suis pas allé.
Vous y avez assisté, vous, Thomas?
Non, pas du tout.
C'est un truc dément.
Ouais, apparemment, c'est dément.
Ils connaissent tout. Comment fonctionne donc cette référence pour vous?
C'est une référence comme Phantom of Paradise ou comme on parlait de la typo des Cramps aussi est assez intéressante.
Exactement, ouais.
C'est un peu toutes ces typos 70s, glam, un peu smoky. Je sais pas aussi pour les rares collectionneurs qui ont eu le CD, le disque La Horse de Gainsbourg. Il y a Smoke Disc. Et on voit aussi, ce genre de typo.
Un peu flammé, ouais.
Ça a été un peu ce genre d'inspi, quoi.
Alors, le film, dans le film, il y avait un sens de la dérision, de l'ironie, du kitsch assumé, revendiqué, qu'on trouve encore chez vous, notamment au titre Foreigner. On écoutera tout à l'heure un passage qui est vraiment le truc. Généralement, on se dit, non, mais ça, on ne peut pas le faire.
Non, on peut pas.
On peut pas.
Même à la base, on ne pouvait pas. C'était une récréation de studio, en fait. On bossait sur Disconnection et j'ai isolé une boucle. Et du coup, pour rigoler, on a fait des paroles en mode To Be Free. Mais c'était vraiment histoire de se détendre en studio. Et puis, on a commencé à sortir avec des accents horribles. Et après, on s'est dit, waouh, mais en fait,
c'est pas mal, ouais.
C'est génial. Et après, on s'est dit, mais imagine, c'est un tube et on est condamné à chanter Foreigner toute ma vie pendant 30 ans, quoi. Le clip, vous allez pas être déçu quand il va sortir, vous allez voir.
Alors, justement, parce que vous avez commencé à clipper certains de vos morceaux, pas tous ensemble. Je crois qu'on
en a fait 13 pour l'instant.
Sur 15.
Ah, quand même.
On va clipper tout. Et l'idée, c'est d'avoir après le film où c'est cette fausse émission de télé. Ouais. On a pu voir dans Disconnection qui va être le socle du film.
Style droit de réponse.
Où tout le monde fume, boit, philosophe. Et c'est une émission spéciale La Femme où on présente le groupe aussi en parallèle.
Est-ce qu'il y a des jetées de cendriers comme à l'époque
Oui, il y a des jetées d'eau, des jetées de bouquins, il y a quelques trucs. Voilà.
Alors nous aussi, on a voulu relier les titres, nous faire notre propre film. C'est Stéphane Le Guenec, notre réalisateur, qui signe le mix. Sous le titre La Femme ou La Condition de l'Homme, c'est facile, on doit vous le faire souvent. En 9 titres sur 15.
Tu traînes sur ce sentier louché, sinueux. Tu viens de loin, tu m'as cherché quelque part et tu t'es égaré.
Les caresses font de moi un esclave. Je suis si docile.
Respect.
De 9 titres qui donnent un petit peu toutes les directions que prennent l'album. On a l'impression que c'est Stanley Kubrick qui l'a fait, c'est-à-dire que chaque morceau a véritablement sa signature musicale. Beaucoup de choses dans ce mix sur lesquelles je voudrais revenir, notamment les voix lyriques, mais d'abord une chose qu'on vient d'apprendre ici, c'est que pour le titre Disconnection, qui est une sorte de parodie comme ça de bavardage philosophique à la télévision, le clip vous l'avez tourné
au Palace,
mais au départ vous vouliez le faire ici à la Maison de la Radio.
Exactement.
Dans ce studio
Oui, non, dans le studio où c'est en en doré le plafond là. Vous voyez où il y a où Didier Varro à un moment il faisait le bar.
Ah oui.
Après ça aurait pu un autre. En vrai on n'était pas exigeant. On pouvait aller n'importe où.
Et alors et Didier Varro devait jouer son propre rôle.
On a écrit les emails et je crois que ça c'est il y a pas trop eu de réponse et puis finalement comme on était parti sur la piste du Palace on allait tout faire en même temps bah c'était pratique et on a fait le propre truc mais à la base ouais c'était l'idée avant que ce paradigme ça soit un concept film où on pensait juste faire 4-5 clips bah il y avait Disconnexion dans l'eau et on s'est dit ah bah tiens celui-là faut le faire à la maison de la radio quoi.
Et Didier Varro il aurait joué quoi comme
bah Didier Varro il aurait fait le présentateur qui écoute Sacha et qui acquiesce comme ça
oui, en regardant
ouais, en regardant comme ça tu vois et en peut-être en grattant son menton en même temps ou je sais pas et il y aurait eu Sacha
avec un masque ou sans masque on sait pas
c'est ça ouais
alors beaucoup de choses dans ce mix notamment au niveau des sons avec les voix lyriques, c'est quelque chose qui revient sur certains titres.
Oui, exactement. Bah, c'est vrai qu'il y en avait aussi dans Où va le monde et on a pu en entendre au Zénith. Et donc, en fait, ma cousine Aurélie Magnier, elle est chanteuse à l'opéra. Et donc, du coup, on a eu la chance de pouvoir faire des voix lyriques avec elle. Et aussi Mathilde Fernandez, qu'on entend dans Lâcher de chevaux. Et puis Aurélie dans Disconnexion, quoi.
Ces voix lyriques, c'est le côté New Morricone, de temps en temps?
Exactement. Ouais. Et puis même le côté classique, finalement, une voix lyrique, c'est un peu le côté d'une voix qui est, enfin, ça devient un instrument, en fait. C'est la voix lyrique, c'est un peu l'instrument de la voix. Enfin, c'est réduire la voix à un instrument presque, des fois. Enfin, mais sans être péjoratif.
Mais
ou
non,
quoi,
bien sûr, ouais.
Mais c'est juste, on la prend pour ce qu'elle est, pour un, c'est comme, je sais pas, enfin, voilà, quoi. Plein de voix lyriques, ça peut être, enfin, c'est aussi puissant qu'un corps de violon, etc. Quoi.
Alors justement, en parlant des violons, il y a un travail sur les cordes, plutôt... non, pas sur les cordes, sur les cuivres, ouais, plutôt très saturés.
Ouais,
très saturés.
Pour retrouver le son des années 30, en fait, parce que souvent, c'est vrai que tous les disques de jazz qu'on écoute récents sont trop clean. Et en fait, le jazz qui a le plus influencé tout le monde, enfin l'ancien jazz, surtout le swing, etc., souvent, bah, ils avaient des méthodes d'enregistrement qui était plus rudimentaire que maintenant, mais ça faisait un charme, enfin vraiment fou quoi.
Vous avez une connaissance du répertoire de jazz ?
Ouais, surtout swing avant les années 50 quoi.
Pour quelle raison ?
Ben ma mère, elle est chanteuse de jazz et notamment elle a un groupe aussi New Orleans qui s'appelle le High Society Jazz Band où mon grand-père jouait de la clarinette qu'elle a repris quoi. Donc du coup j'ai surtout côtoyé le jazz avant les années 50 quoi.
Vous l'avez vu sur scène votre mère ?
Ouais carrément, c'était le premier concert que j'ai vu et tout et puis celle qui m'a accompagné dans la musique.
On écoutait donc du jazz ou autre chose chez vous ?
Les Rolling Stones et du jazz, quoi.
Et vous, Thomas ? Thomas Saez ?
On écoutait... non, moi je me suis fait ma culture un peu tout seul.
Tout seul ?
Ouais.
Avec un grand frère qui vous fait écouter des choses ?
Non.
Alors, vraiment tout seul, ouais.
Ouais, tout seul, avec les copains. Voilà.
Alors, ce qui est passionnant dans votre groupe, c'est le hiatus qui existe entre l'album et la scène. On va dire que l'album, il est créé, comme ça, en studio, vous êtes deux. Et ensuite, quand vous passez sur scène, vous êtes un groupe où les gens jouent des instruments, il n'y a pas de synthé, quoi que ce soit. Pour cet album,
il y a même que ça. Mais il n'y a pas d'ordinateur.
Mais il n'y a pas d'ordinateur, c'est ce que je voulais dire. Vous y pensez dès la composition, à ce que ça va donner sur scène ?
Non, justement, on n'y pense pas du tout et on ne veut pas y penser. C'est un peu comme quand on écrit un clip, on imagine qu'on a 10 millions d'euros. Et en fait, on laisse vraiment nos rêves y aller et on se dit pas parce que sinon ça met des barrières. Et par contre, après sur scène, on se dit bon bah comment on va faire ça, au même titre qu'après avec le clip, on est là bon bah on attend. En fait, comment on va faire pour l'hélicoptère? Et voilà quoi.
Je rappelle que vous êtes autoproduit, donc pour les hélicoptères, c'est difficile.
Bah non, mais ce qu'on fait, notre méthode, en fait, soit on fait des maquettes d'hélicoptères, alors ça, on a essayé deux fois, ça n'a jamais marché. Ouais. Ou sinon, le mieux, c'est d'être chanceux, attendre, et à un moment, il y a un hélicoptère qui arrive. Et ça nous est arrivé deux fois dans Amour de Mantou, et bah, It's Time to Wake Up, on avait vraiment besoin d'un hélicoptère, et il est arrivé quoi. Donc c'est assez cool.
Le fait d'être autoproduit, qu'est-ce que ça vous permet ?
Ça permet d'être sûr de ses choix, décider. C'est vrai que quand on produit avant on a toujours été en licence, quand on produit ses albums, ce qui est cool, c'est qu'on peut décider avec qui on va mixer, on peut décider de quand l'album est fini. Alors que c'est vrai que quand quelqu'un paye pour nous, bah il va dire mon coco, mais là ça fait deux mois que tu vas en studio, maintenant c'est fini, ou alors tiens tu vas plutôt travailler avec lui, ça c'est l'heure de chanson. Donc comment ça permet vraiment de maîtriser sa création. Après ça peut très bien se passer avec des producteurs, mais c'est juste que si jamais on est dans un grand label et que le producteur change ou quoi que ce soit, voilà, au moins c'est la garantie que l'art est certifié par l'artiste et vraiment comme il le voulait, quoi.
Financièrement, j'imagine que c'est difficile quand même.
C'est difficile, mais après le jeu avant à la chandelle. Et puis de toute façon, c'est cool parce que on a notre art nous ressemble beaucoup plus, quoi. Et puis au moins, ce qui est cool, c'est qu'au moins on arrive à en vivre. Et ça, c'est le principal.
Vanessa Paradis, elle ne regrette pas de ne pas chanter le son de mon prochain que vous lui aviez destiné ?
Ah, je ne pense pas, mais à mon avis, ça doit la faire rire, mais je ne pense pas, je ne sais pas.
Elle ne sait même pas qu'elle...
Et il me semble qu'une fois, on lui avait dit, ou je ne suis pas sûr, mais je ne sais pas si elle écoutait, mais en tout cas, je lui souhaite une bonne écoute, et de toute façon, on sera toujours ravis d'en faire d'autres pour elle, mais voilà quoi.
On va se retrouver dans quelques instants, Thomas Seize et vous, Marlon, mais tout de suite, c'est Marion Guilbeault.
Le tempo ?
Côté
club. 140 BPM.
Côté club.
Et la vie, elle a un tempo.
Sur France Inter.
Tiens, c'est pas le jingle sexy.
Non, c'est bizarre, comment ça se fait? Ça aurait été bien ce soir avec la femme. Bah, ça change, voilà, c'est ce qu'il me raconte Stéphane Le Guenec.
Marion Guilbeault.
5 albums détournés dans le monde entier. Depuis 2003, General Electric se brasse, lui aussi, les époques, les genres, les sons, avec une petite préférence pour celui du clavinet. Ils viennent de publier Cornes de Gazelle, un nouveau titre appétissant qui rétablit une connexion entre Berlin, la France, le Maroc, Yumi Yumi.
Jeune pousse, comme l'objet de toutes les sauces, nombreuses sont les causes qu'on épouse. Le genre extraterrien de souche, nos cœurs ont la chaleur piment rouge. Assoiffé, bien qu'ayant plus la tasse, on se tue à la tâche, le couteau à la bouche. Tranché, nos points de vue, nos coins de rue, le monde entier, nos trains de vie, pieds au plancher. On a grandi mélangé, l'accent épicé comme vieux rhum arrangé. Frère de Tanger, gosse des HLM, cousin d'Alger. Femme de châtelain ou mannequin branché. Lâche le frein, on vient te faire voyager.
Loin tu partiras,
ouais.
Loin, loin.
Viens, viens.
Loin tu partiras, loin, loin.
500 grammes d'amandes, 250 grammes de sucre.
Le mouvement des planètes, le poids des années, la foule de galères, les amours fanées. On se nourrit au couplet de Fela Kuti, qui veut nous couper l'appétit n'est pas né. Tant de goûts et de couleurs refoulées, de gens cool, de père la morale de poulet. Chacun sa foulée, mais l'un renie l'autre quand l'autre aime à la folie, comme s'il l'avait volé. Et on s'envoie valser, coucher, pas bouger, pas toucher à mon tracé. À chacun ses roulés poulets, oublions les orages passés. Sous la pluie, on n'a qu'à danser, le vent va tourner. Jour de fête ou soir de doute, quelle que soit la durée de la nuit, le jour va débouler, qu'importe la recette, viens goûter ce qui va te chambouler.
Loin tu partiras,
ouais.
Loin, loin.
Viens, viens.
Loin tu partiras, loin, loin. 500 grammes d'amandes, 250 grammes de sucre, une cuillère à café de cannelle.
Cornes de Gazelle, signé General Electric, avec la voix de Leroy. Bonsoir Hervé.
Bonsoir.
Bienvenue dans Côté Club avec Marlon de l'impératrice. N'importe quoi, de la femme. Allez,
vous voulez chanter
aussi un peu?
Oh,
Marlon.
Bonjour Hervé.
Et Thomas de la compagnie des musiques télescopiques. Bonsoir. Vous les connaissez? Vous avez déjà croisé la femme peut-être sur des festivals?
Alors Thomas, je le connais pas, non, mais Marlon, oui, on s'est déjà croisé à plusieurs reprises, et c'était à chaque fois à l'international, il me semble. Ouais, la première fois c'était à Bruxelles, ouais. On s'était croisé à New York aussi, à Central Park, là,
lors
de concert, la fête de la musique.
Ouais, c'était cool.
Ah, c'est dingue.
Ah, dis donc.
Ouais.
Pas
quand
mal.
Quand la femme s'appelait l'impératrice.
Oui, c'est ça. À celui-là, je vais le manger, je le sens. Hervé, vous êtes la voix, vous êtes les doigts de General Electric depuis 2003. Hein. Vous avez énormément tourné, comme la femme. Vous êtes à l'arrêt après la tournée qui a suivi Carrie No Ghost en 2018. Quand est-ce que vous avez recommencé à écrire? Est-ce qu'il y a un laps de temps pour vous à respecter entre deux disques, ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à enchaîner très vite?
Alors, il n'y a pas vraiment de règle pour moi par rapport à ça. En l'occurrence, ce disque-là, j'avais commencé à l'écrire pendant la tournée de Carrie No Ghost, mais c'était pas super avancé, et j'ai terminé en fin de tournée, et je pensais que ça allait sortir beaucoup plus tôt, à vrai dire, que ça allait être fini plus vite et que ça allait sortir plus tôt, puis la pandémie est arrivée. Donc ça, en fait, j'ai levé le pied, j'ai fini ça un petit peu plus lentement que prévu, mais ça s'est fait un petit peu pendant la tournée. Mais le concept même du futur album, donc il va s'appeler Party Like a Human, ça c'est venu plus tard.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Party Like a Human, ça veut dire faire la fête comme un humain.
Ah, pas mal, je pense que ça peut parler aux gens autour de cette table. Ouais, Marlon, il confirme ça. Comme de Gazelle, le titre qu'on vient d'entendre, on entend bien, c'est une métaphore sur le vivre ensemble. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour écrire cette chanson?
Alors, comment ça m'est venu cette histoire? En fait, à la base, moi, je suis très fan de morceaux de funk américains qui parlent de cuisine. Mm-hmm. Genre Memphis Soul Stew de King Curtis, par exemple. Je sais pas, Pass the Peace des JB's. Enfin, il y en a plein. Hein. C'est un espèce de sous-genre de funk, presque.
Ah ouais, c'est vraiment un truc de niche, hein, ouais.
Excellent.
C'est un truc de niche, ouais, mais il y en a pas mal, hein. On peut continuer si vous voulez. Mais, je me suis dit que ce serait rigolo d'en faire un en français. Et, moi, je suis assez porté sucrerie. Et j'adore les cornes de gazelle. Et j'avais un petit thème, le thème de clavinette que vous avez entendu sur le morceau. Qui traînait, et je me suis dit voilà, ça pourrait être l'occasion de partir sur un morceau avec ça, et je me suis dit oui que cette idée de corne de gazelle ce serait un bon petit tremplin pour je sais pas célébrer le brassage culturel à la française quoi, et donc mélanger les cultures.
Et le brassage culturel à l'allemande, ça se passe comment? Parce que vous avez vécu 12 ans à San Francisco, aujourd'hui vous vivez à Berlin, dans quel quartier? À Neukölln, c'est ça? Vous y avez trouvé quoi là?
Oui, absolument.
Vous y avez trouvé quoi à Berlin?
J'ai trouvé beaucoup d'espace déjà. En fait, l'idée était, c'était pas juste moi, c'était aussi avec ma femme Sarah et nos deux enfants. On voulait rentrer en Europe après San Francisco. On n'était pas trop sûr d'où aller. Et en passant à Berlin, on est tombé totalement amoureux de la ville et notamment de l'espace dans la ville et de la nature dans la ville. Je trouve que c'est quelque chose de pas si évident que ça à trouver en Europe, en fait, la nature et la culture. C'est-à-dire, t'es dans une grande ville cosmopolite où il se passe plein de trucs. C'est une ville très vivante. Et en même temps, il y a des parcs gigantesques, il y a des lacs tout autour, etc. Et on s'est posé là. Et puis voilà, ça fait 9 ans maintenant qu'on est là. On est ravis.
Marlon, Berlin, vous avez déjà joué avec la femme, j'imagine?
Oui, exactement, on adore et c'est vrai que c'est un...
Vous avez un souvenir d'une salle là-bas, une part en particulier, d'une ambiance?
Saut 36, c'est vrai que c'était un club assez mythique où quand on arrivait, il y avait plein de posters de groupes. Je me rappelle, j'avais vu un poster de Rancid ou NoFX, je crois. J'étais là, ah ouais, cool et tout. Mais ouais, en tout cas, c'est super. Et puis, il y a aussi Anton Newcombe qui habite là-bas, Berlin.
Ouais.
Donc c'est cool.
Oui, il a son studio là-bas. Ce titre, Corne de Gazelle, Hervé, pourquoi vous ne l'avez pas chanté vous-même finalement? Pourquoi vous avez fait appel au Flo, à l'écriture de Leroy, parce qu'il signe, il co-signe la chanson, je crois?
Absolument, ouais. Bah déjà, en fait, tout simplement parce que je suis super fan de Leroy et que c'est le genre de rappeur que j'adore. Enfin, il a un sens du son des mots que je trouve assez dément, un sens de la cadence rythmique aussi assez dingue. Et c'est un vrai poète, je trouve, un poète avec une rythmique assassine, mais un poète avant tout. Et cette mission qui était finalement assez casse-gueule de parler du vivre ensemble, comme vous le disiez tout à l'heure, en partant d'un dessert, je pense que c'est pas n'importe quel rappeur peut écrire ça. Et Leroy a fait quelque chose de fabuleux. Je suis vraiment ravi d'avoir pu l'accueillir sur ce track.
Vous avez suivi la recette donnée dans la chanson? Ça marche?
Elle est sommaire.
Moi, personnellement.
Ouais, vous savez les faire, les cornes de gazelle, ouais, ça marche.
Je fais les cornes de gazelle, ouais. Je les fais pas aussi bien que celles que j'ai mangées au Maroc.
Ouais.
Mais d'ailleurs, pour la petite histoire, la recette que je donne, c'est la recette que m'a donnée Aïcha Chaton, qui est la maman de Jessie, notre bassiste.
Bah, de votre bassiste, bien sûr.
Ouais, absolument, ouais. Donc tout ça reste dans la famille, quoi.
Super. Merci beaucoup, Hervé. À très bientôt. C'est on en parlera
moi,
certainement.
Moi, je vais juste lui dire quelque chose. Oui, j'entendais le titre de l'album, Party Like Human, et je trouve que c'est vraiment éloquent parce que il y a un truc. Donc, je suis assez fier. Si jamais il y avait des extraterrestres qui venaient sur Terre, c'est de leur montrer comment on fait la fête. Et je trouve que c'est très humain, en fait, la fête. Donc, c'est vrai que c'est drôle. Je sais pas si c'était pour ça,
excellent.
Mais ça me touche.
Ouais.
Vous pensez aux extraterrestres?
Ah, mais bien sûr. Ouais. Enfin, après, non. Enfin, je pense pas à eux tout le temps, mais voilà.
Mais de temps en temps. Voilà, d'accord. Et Thomas XVI lui regarde le ciel, on va en parler dans quelques instants.
Merci Hervé, à très bientôt. Je rappelle donc le dernier titre de General Electric, c'est Corne de Gazelle avec Leroy et c'est disponible sur toutes les plateformes.
Un vent nouveau souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié ébahi, on se mouillait mollement. La glace fondait dans l'esprit, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais elle répondait bien à tous les mots, le trait d'esprit du cerveau central. Comprendre rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutait la frousse. Oh, et les poils en même temps, la clarté nous pendait au nez. Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Que ça vient nous faire de nos mains.
Feu Chatterton, Monde de Nouveau, ils étaient en live dans le concert triple affiche au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Cette version qu'on a choisie, comme vous la femme, hein, je me souviens avec Marion, vous avez accueilli, c'était le concert double affiche à l'époque avec,
Julien Doré.
Deuxième album, ça c'est pour vous Thomas Saez, avec ce projet de la Compagnie des Musiques Télescopiques, le titre c'est Dôme, mais avant vous aviez déjà une vie dans la musique, sur scène, en studio avec Alex Baupin, c'était pour la BO des Chansons d'Amour.
Tout à fait.
Alizé sur scène et pour un album,
Psychédélise.
Et Madomas. Pendant tout ce temps-là, vous étiez avec les autres, vous rongiez votre frein, vous pensiez qu'un jour vous signeriez, vous aussi, vos projets personnels?
En fait, j'avais déjà des groupes en parallèle qui étaient miens quand je redescendais pour les vacances au Pays Basque, où je jouais avec mes copains la musique que j'écrivais, enfin qu'on écrivait tous ensemble. Donc j'avais toujours ce refuge là de mes propres groupes. Après j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les musiciens de studio.
Bien sûr.
C'était une branche de la musique qui me fascinait et qui m'attirait beaucoup. Donc je suis super content d'avoir pu jouer pour ces artistes un petit peu.
Il y a toute une histoire des musiciens de studio. Quand on avait fait une émission sur Gainsbourg, on avait téléphoné à ceux qui avaient joué avec lui en studio. Voilà, c'est toujours vraiment passionnant.
Ils sont en disparition, les musiciens de studio.
Ils sont en disparition, ouais.
Carrément.
À cause de gens comme vous.
À cause de gens comme nous, exactement, qui s'enregistrent chez eux. Aussi, le fait qu'on peut éditer, en fait. Maintenant, les gens jouent de plus en plus mal. Et c'est comme ça, c'est malheureux, mais bon, c'est. Changement de paradigme.
Exactement, il a bien placé son titre. Vous devrez être attaché de presse de votre propre album. Alors, vous quittez Paris, retour au Pays Basque, vous y fondez un trio, Le Mutant, extrait.
Soy un Dracula, yeye, que nadie asusto. Si no tiembla ante mi, no me disgusto. Soy un vampiro genial, que nada chupa. Aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno. Y lo estoy pasando bien. Soy vampiro, con melena.
C'est le titre, Dracula Yeye. On est sujet. Bien loin des musiques télescopiques, du chic spatial, du concept album, Thomas Saez.
Ouais, c'est un autre délire, tout à fait. Ouais. J'ai eu plusieurs vies. Ouais. C'était un groupe de surf punk.
Plusieurs albums en plus.
Plusieurs albums, ouais. On a fait des tournées aux États-Unis aussi, en DIY. On a bien rigolé. Ouais.
Surf punk. Ça, ouais. C'est un concept aussi.
Ouais, surf punk, ouais. Basco-californien, le guitariste vit à Los Angeles. C'est chouette. Ouais.
Vous aviez d'autres groupes avant La Femme, Marlon?
SOS Mademoiselle, du coup, qui était du twist yéyé, mais c'était plus du twist punk, finalement.
Il y a vraiment quelque chose autour de la punk basque.
Quand tu sais pas jouer, en fait, tu rajoutes ça à la fin. Voilà,
ça veut dire qu'il fallait quitter Paris, vraiment, pour signer un projet seul, pour vous, Thomas Saez?
Moi, j'ai toujours trouvé qu'à Paris, tout était compliqué. Dans la vie quotidienne et aussi dans la musique, je trouve que c'est compliqué de trouver des locaux de répétition, de trouver des musiciens, je sais pas, il y avait quelque chose qui m'a toujours bloqué à Paris, et donc j'étais très content de travailler pour les autres, et le fait de rentrer au Pays Basque, je pense que ça a vraiment permis de prendre du temps pour soi et de passer du temps sur les projets que j'avais envie de défendre réellement, quoi.
Alors aujourd'hui, donc, deuxième album Dôme pour ce projet de la Compagnie des Musiques Télescopiques avec un tropisme spatial. C'est un concept album, on va y revenir. Ça vient d'où cette passion pour les étoiles, le ciel? C'est une passion d'enfant? C'est quoi?
C'est, moi j'ai toujours été attiré par le monde scientifique. L'exploration spatiale, ça fait rêver tout le monde, quoi. C'était une idée à la base de Jean, le saxophoniste et claviériste du groupe, qui nous a un petit peu dit, bon, les gars, j'ai une super idée, on va faire, de la musique sur le thème de l'espace. On va faire ça, et puis on l'a suivi, quoi.
Il y avait des références déjà dans la scène musicale sur des concepts spatiaux pour les albums.
Un petit peu
de ce côté-là.
Bien sûr, on n'est pas les premiers à avoir fait ça. Je sais qu'il y a Jaco Gardner qui a récemment fait tout un album concept là-dessus, qui est super d'ailleurs. Je crois qu'il y a Sofiane Stevens aussi qui a fait un album. Oui, c'est une source d'inspiration qui est complètement intarissable, quoi.
Concept album, ça vous intéressait de travailler ce modèle-là?
Oui, parce que
nous, on a commencé le groupe, il n'y avait quasiment pas de chant. C'était que, des morceaux instrumentaux. Donc notre façon de composer collectivement, c'était de s'imposer des scénarios et d'avoir une ligne directrice qui était des scénarios en lien avec l'espace, comme par exemple, je sais pas, la sensation qu'on peut ressentir, on s'imagine en apesanteur. Ou alors, quelle musique peut nous évoquer la vitesse de la lumière, ou la danse d'un satellite autour de sa planète. Enfin voilà, des sujets complètement divers et variés sur la thématique de l'espace, quoi.
Et alors pourquoi, pour ce deuxième album, les voix sont apparues avec des textes ?
Bah, petit à petit, voilà, on avait envie de se rapprocher du côté pop. Et qui dit pop dit chant.
Ouais.
Et c'était une part qui nous attirait depuis longtemps. On n'avait jamais vraiment sauté le pas. Et là, c'était l'occasion de le faire, quoi.
Concept album, c'est pas trop votre truc, hein, pour la femme,
si,
Marlon.
Si, c'est carrément notre truc. C'est juste que malheureusement, en fait, un album pour nous, ça sert un peu comme vitrine de Versailles à défendre. Et c'est vrai que des concept albums, c'est trop niche. Et on préfère en fait faire des albums pour pouvoir après avoir les moyens de faire nos concept albums et s'en fiche. Mais il y avait, en tout cas, l'hawaïenne, c'était tiré justement d'un album hawaïen. On voulait faire justement des albums aussi, même avec des concepts saugrenus, genre Archiva Space Vishnu. Il y avait aussi l'album à thématique succube qui s'appelait Succube et Vilaine, ou Nymphe et Succube. Il y avait aussi l'album de musique aquatique. On adore ça, mais pour nous, l'album, c'est plus l'occasion aux gens d'écouter un panel, et après, s'ils aiment, ils vont aller diguer, quoi.
Alors, on va écouter juste un extrait de ce concept album. Il y a des titres comme Supernova, Sortie dans l'espace, et puis un titre que j'adore qui s'appelle Saturne. Alors là, avec notre réalisateur, on a joué la carte efficace, on est à la radio, on va écouter la partie chantée, mais en fait, ça ne rend pas du tout justice à ce morceau, qui commence par une très longue introduction musicale. Et j'aurais aimé savoir comment vous l'avez travaillé, justement, parce que tous les morceaux, quelquefois, débutent assez rapidement avec le chant, mais Saturne, il y a vraiment une entrée dans la matière.
Ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas Thomas trop réfléchi à la problématique de la radio faisant ce morceau.
Avec des titres de 6 minutes. Ouais. Mais c'est ça qui est bien.
Ben voilà, c'est ça. Ce morceau, à la base, il avait été écrit pour un concert qu'on avait fait au Planétarium de Dunkerque. En fait, on avait été mandaté pour écrire la musique d'un film de Planétarium, quoi, d'un voyage.
Oui, parce que les Planétariums, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Marlon, ils ont leur propre film, c'est ça, quoi. En fait.
Ouais. Ah oui, donc en fait, la géode, c'est un planétarium.
C'est ça.
Ouais, d'accord, ouais, excusez-moi, je savais pas.
Non, mais c'est ça. Ouais.
C'est la même chose.
Ouais. Oui, d'accord. C'est ça. Ils ont leur propre, d'un point de vue technique, ils ont leur propre format de film avec les caméras qui envoient bien dans tous les sens. Et donc il y avait cette personne, Priscilla Maréchal, qui avait créé un film, et nous on a fait la bande originale de ce film, et ce morceau, la première version de ce morceau faisait partie de ce film.
Un côté très Pink Floyd,
évidemment.
Revendiqué
à
fond.
Un beau solo, hein, là. Ouais. J'entends, ça a l'air.
Ouais, c'est sûr qu'on va pas se mentir. Pink Floyd, c'est une influence, qui est très présente pour le groupe. C'est un peu la référence sur laquelle les quatre membres ont se rejoint sans discuter. Même si après, on a tous, on apporte tous nos références personnelles au grand mélange, quoi. Mais oui, Pink Floyd, évidemment. Ouais.
Ça vous inspire quoi, justement, Marlon?
Moi, j'adore, hein, tout ça, ça me parle, ces grands solos. Là, à un moment, j'ai cru entendre une nappe de B3, un moment après ou quoi, ou je sais pas.
Ouais, tout à fait.
Mais voilà, tout aussi. Ça, c'est génial, quoi.
Une nappe de quoi?
De B3.
Ouais, c'est l'orgamon qui est le plus. C'est l'orgue électronique le plus doux, en fait. Et puis, c'est le plus connu aussi, en général, quoi.
Ah, on va la remettre.
Non, pas.
ici là derrière là, c'est ça là.
C'est ça derrière.
Derrière au fond un peu église, tu vois, t'entends un truc solennel.
Ouais, il y a du B3, il y a du Juno, il y a plein de synthés vintage.
Ouais.
Plein
de choses. Vous collectionnez?
Non, moi je les collectionne pas, mais on adore ça. Enfin, j'en ai un. On en a chacun un dans le groupe.
Vous, c'est lequel?
Six Track.
Vous connaissez?
Ouais, je connais, ça a l'air cool. J'ai jamais pu essayer, mais ça a l'air vraiment bien.
Séquential Circuit, ouais, c'est super. Ouais.
C'est une très bonne marque américaine, Séquential Circuit, qui ont fait des très bons synthés au début. Je recommande le Pro One, notamment.
Ça y est, la conversation tourne au but. C'est vraiment génial. On va tout de suite écouter Sirène, donc extrait de Dôme. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur le morceau que l'on va écouter? Un edit radio, vous avez pensé quand même à la radio en fait.
Mais oui, parce que la dernière fois que vous aviez parlé de nous...
C'était Marion, oui.
C'était avec Supernova.
C'était avec Supernova et puis on s'était dit, c'est dommage, elle a coupé l'intro.
On est à la radio.
Mais oui, mais en même temps, on a des morceaux de 8 minutes, donc c'est normal. Donc là, on s'est dit, on va pas se revoir, on va faire un radio edit.
Et donc
Je sais pas.
On va voir ce que ça donne. Vous avez coupé l'intro?
On a coupé l'intro, ouais.
Ah, vous avez comme Marion alors.
Aux sirènes venues d'ailleurs, au-delà des brumes et des vapeurs, des chants étranges, des voix s'échangent. La tentation des voyageurs où se mêlent des rires et puis des pleurs résonne encore, résonne encore. S'éloigner des routes, tenter le sort, suivre une étoile au prochain port, saisir sa chance, saisir la danse. Si le vent se lève, virer de bord, sèche qu'elle s'évapore, vivant dehors, vivant dehors. Dans le ciel, we'll be right back.
Sirène, extrait de Dôme, c'est le deuxième album de la Compagnie des musiques télescopiques avec un gros plan notamment sur le vol Apollo 11 de juillet 69. À côté, c'est une fascination pour qu'il soit au centre de cet album, Thomas Sahel.
Oui, effectivement.
Même le journal de bord, j'ai vu qu'il est.
Ouais, le premier morceau qui donne son nom à l'album, qui s'appelle donc Dôme.
11 minutes.
Voilà, on a essayé de raconter toute l'épopée d'Apollo. Lorsqu'ils sont partis donc marcher sur la Lune, en découpant le morceau selon les étapes du voyage, le décollage, l'alunissage, les premiers pas. Et voilà, on s'est dit que ce serait marrant de récupérer les relevés de ce qui se disait dans le circuit entre les astronautes et l'équipe au sol.
Et de les réintégrer dans...
Voilà, on les a réintégrés et on a mis les relevés dans le livret.
Eh bien, merci. On va se quitter puisque c'est la fin de Côté Club. Merci Marlon.
Merci beaucoup.
Je rappelle Paradigme, troisième album de La Femme. Le 22 mai, vous serez au Zénith si tout va bien. Merci Thomas.
Merci beaucoup.
Dôme, deuxième album de la Compagnie des musiques télescopiques. Ça sortira le 16 avril prochain.
Le 23.
Le 23 avril prochain. Et puis, il y a des scènes cet été... sur le site de la Compagnie télescopique. Marion.
Nouveau titre, Corne de gazelle pour General Electric, disponible sur toutes les plateformes en attendant l'album.
Demain, on a rendez-vous avec Françoise Breu, de retour 5 ans après son dernier album, et Requin Chagrin, ambiance Cold Wave, Lynchienne. Marion.
On sera au bout du fil avec l'infatigable Didier Varro, directeur de la musique des antennes de Radio France, qui lance un nouveau concours, Chanter 20 ans en 2021.
Je pense qu'il va se gratter le menton un petit peu comme dans le clip qui aurait dû avoir lieu. Côté club, on ferme. Allez, je vous souhaite le bonsoir. Alors à demain.